Donc la deuxième fois, Bilam est allé avec les émissaires de Balak. Vaychar af Elokim ki olechu. Donc Elokim s'est mis en colère parce que Bilam allait, il était en marche, il s'était mis en marche avec eux. Vaityatsev malach Hashem, et l'ange d'Hashem s'est tenu devant. Vaityatsev, c'est Yatsiv, ça veut dire se tenir droit, c'est-à-dire debout. Sous-entendu, il s'est mis au milieu du chemin. Le texte dit que Hashem s'est mis en colère. Et ensuite, on dit il y a un ange d'Hachem qui s'est mis au milieu du chemin de Bilam. On s'attendrait à ce que cet ange soit un ange de punition de Bilam. Un ange qui reflète la colère, en fait, si on peut parler comme ça. Mais le Midrash dit « Malach shel rachamim aya, venaase lo le satan ». C'était un malach de rachamim, un malach de tendresse, en fait. Mais en fait, naase lo le satan. Mais pour lui, il en a fait un Satan, c'est, il en a fait un quelque chose de négatif pour lui. On verra, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire que c'est un malach de rachamim. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, que qu'a priori ce malach il était là Rachamim pour Bilam aussi, pour empêcher Bilam de fauter. Mais lui, il l'a vu comme un ennemi, il en a fait un ennemi probablement. On reviendra là-dessus. Ushnena Ravimo, et donc Bilam était là avec ses deux serviteurs. Zou derecheret shayotse la derech tsaech shnaim le shamsho, vechozrim ou meshamshim ze la ze. Il dit que ce sont des manières convenables, que quand quelqu'un d'important est en route, alors il a deux personnes pour le servir, pour l'accompagner donc, afin que chacun puisse. On a l'impression que il faut que. Le cas échéant, un deuxième serviteur puisse pallier aux besoins du premier serviteur. C'est-à-dire finalement, ils cèdent l'un l'autre, les deux serviteurs. Vatere à Aton, donc vous vous souvenez que la voiture de service de Bilam, c'était une ânesse. Vatere Aton et Malach Hashem. L'ânesse a vu l'ange d'Hashem. Et bon, sous-entendu, elle l'a vu. Sous-entendu, elle a vu qu'il était, cet ange, il était là, il avait charbo, il avait une épée. Alors, ici, il manque dans le texte, en araméen, il manque un vechoulou, un etc. sur le début du verset, va tere aton et malach Hashem. Du coup, le Midrash continue, il dit Vichil lo haya yachol amalach linshof bo ve yotzi rucho ela imken shalaf harbo. On s'étonne, le Midrash s'étonne, il dit pourquoi le malach il a besoin d'un glaive, il a besoin d'une épée S'il faut tuer Bilam, s'il faut lui enlever la vie, le malach, il n'a pas besoin d'en passer par ce par quoi passent les hommes. Ce n'est pas nécessaire. Il pourrait très bien, il a d'autres moyens. Et à l'appui de cette thèse, le Midrash dit « Ve'arektiv be'Sancheriv » au sujet du roi Sancheriv, il est dit « Va'yetse malach Hashem » C'est marqué que, quand il y a eu cette guerre entre Sancheriv et les rois d'Israël, c'est marqué, le malach d'Hachem est sorti, sous-entendu, il est passé dans le camp de Sancheriv, et il a frappé dans le camp de Ashur. Ashur, c'était Sancheriv c'était le roi d'Ashur, de la Syrie, oui. V'gam nashav bahem. Et le verset dit que cet ange, il a simplement, il leur a soufflé dessus quasiment, et ils ont disparu. Il leur a soufflé la vie, comme il fait. Donc on voit très bien qu'un malach n'a pas besoin des instruments pour faire son travail. Et la kacha marlo, mais il lui a dit, en fait, à Bilam, alors, qui est-ce qu'il lui a dit? On va voir tout de suite qui parle. Kacha marlo, apenitan le Yaakov. Est-ce que c'est Hachem qui l'a dit à Bilam, il lui a dit, la bouche, c'est-à-dire la puissance de la parole, elle a été donnée à Yaakov. C'est marqué dans le Passouk que Yitzhak Avinu, quand Yaakov est venu pour prendre les brachot, et que vous saviez bien qu'il était déguisé en Esav, alors Yitzhak a dit, Akol, kol Yaakov, la voix est la voix de Yaakov. Vayadaim ide Esav, c'est-à-dire, ici, et c'est aussi marqué, tu vivras sur ton glaive. Et tous les peuples sont, de ce point de vue-là, des descendants des Saves, et ils vivent grâce à cela, ils vivent par par le cherev, par le glaive. Et toi, tu représentes les peuples. Ve'ata tachlif. Et toi, tu es infidèle en quelque sorte à ta tâche, à ta façon qui te convient, et tu vas t'opposer à eux en prenant les armes de l'ennemi, en fait. Tu vas attaquer Israël avec ce qui est la force d'Israël. Ah, mais si c'est comme ça, Afani avoalecha beshelcha. Dans ce cas-là, dit Hachem, moi, pour t'attaquer, je prendrai tes propres armes. Si toi tu prends pour attaquer Israël les armes d'Israël, moi je prendrai les armes des Saves, donc tes armes à toi pour t'attaquer. Le quartier de Kardosh, le Fabiado. C'est la raison pour laquelle l'ange en question avait un glaive. Voilà. Et donc la première chose qu'on voit, c'est que c'était un malach shel rachamim. Mais pour Bilam, c'est devenu un malach qui n'était pas de rachamim, il en a fait un ennemi. Probablement que ça a à voir avec ce qui est dit par la suite, c'est-à-dire que lui, il est parti en fait quand il s'est mis en chemin, Bilam, Il s'est mis en chemin comme on doit se mettre en chemin. C'est-à-dire il avait deux serviteurs, etc. Il avait tout ce qu'il faut pour pouvoir pour se déplacer convenablement. Donc les formes y étaient. Et le malach, qui était au milieu du chemin, il a été vu par l'ânesse. L'ânesse s'est rendu compte que le chemin était barré. Seulement le Midrash s'arrête pour l'instant sur ce problème de pourquoi ce malach, qui était donc un malach de Rachamim, il avait néanmoins un glaive. Il avait une épée dans les mains. Et c'est pas... Donc il a cette épée qu'il a en main, ce malach, elle lui est évidemment pas nécessaire. Le malach, pour faire son travail, n'a absolument besoin d'aucun ustensile. Son souffle est tout à fait suffisant pour régler les problèmes. C'est même pas la parole en soi. C'est même pas la parole, c'est le souffle même du malach. Et le Midrash apporte une preuve, effectivement, que les malachim fonctionnent comme ça. Du malach qui a fait la guerre contre Sanhérib pour les Bnei Israël et qui a détruit l'armée de Sanhérib sans armes, sans aucun ustensile, en fait. Et alors, qu'est-ce que vient dire pourquoi le malach porte un glaive? Alors Hachem explique à Bilam, semble-t-il, il lui dit, tu n'as pas le droit, en fait. La guerre, ça se fait selon des règles. Toi, ta force, ta puissance, c'est le glaive. Puisque tu représentes les peuples qui sont vus comme dirigés d'une certaine manière par Esav. Et à Esav, il a été. D'Esav, on a dit que c'est Ayadaim Yede Esav. L'arme d'Esav. Sur ses mains, donc lui c'est en agissant, et on a aussi dit que non seulement il y a ça, mais c'est aussi, on lui a aussi dit Al-Khar Bechatirye, tu vivras sur ton glaive, donc tu vivras par la violence, par les armes. Donc à la limite, si on a un peu l'impression du Midrash que si Bilam était venu attaquer les Bnei Israël avec un glaive, je ne sais pas comment qu'est-ce qu'il aurait pu faire. C'est-à-dire, s'il avait monté une armée contre Israël, alors ça aurait été normal. Mais Hachem lui dit, tu es en train de tu attaques les Bnei Israël avec leurs propres armes. Alors, si tu mets les armes d'Israël contre Israël, alors moi, dit Hachem, je vais mettre tes propres armes contre toi. Et c'est ça l'idée du glaive. Le glaive veut seulement lui dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta démarche. C'est-à-dire, il y a quelque chose de... C'est assez étrange, il lui dit, Ata tachlif emunatra. Ta emuna. Ici, c'est presque comme... non pas emunatra, mais comme umanutra. comme si c'était ton savoir-faire, ta oumanout, ton artisanat, ce qui te caractérise. Et là, tu échanges, en fait, tu trahis. Et tu viens contre eux avec leurs propres armes. Alors moi aussi, je défends l'Ebné Israël. Et je t'attaque avec tes propres armes. C'est un peu étonnant parce que pourquoi est-ce que Balak est venu chercher Bilam? Parce que il a fait Balak, le roi qui avait peur des Bnei Israël, il a fait son enquête et on lui a dit bon, la force d'Israël c'est Moshe, et Moshe, la force de Moshe c'est sa parole. Et c'est pour ça qu'il est allé chercher Bilam, Balak. Balak est allé chercher Bilam parce que Bilam est un parleur, quelqu'un qui a une puissance de parole. Alors, on a l'impression, c'est que Bilam, effectivement, c'est l'alter ego de ce point de vue-là de Moshe Rabbeinu. Donc, il a aussi la parole pour faire pièce à la parole de Moshe, en théorie, disons. Mais quand Bilam ne s'attaque pas au Bnei Israël, il a le droit d'utiliser ça. Tu as le droit, ta puissance, c'est par la parole. Mais contre Israël, tu n'as pas le droit. Contre Israël, tu es en train de... Tu renverses le... Akol kol Yaakov ayadaim de'esav, c'est un énoncé qui est valable tout le temps. La guerre entre Israël et les Oumot HaOlam, elle doit se passer de cette manière-là. Les Bnei Israël parlent, enfin, ils ont leur corps, c'est la bouche, et les Oumot HaOlam, c'est le glaive. C'est la violence, c'est la force. On peut mettre ça, si vous voulez, en passant en rapport avec la chose suivante. Vous savez que dans la Kdusha d'Eretz Israël, la Kdusha d'Eretz Israël, c'est, en particulier, c'est le fait que sur cette terre d'Eretz Israël, on a toutes sortes de mitzvot qui sont liées à la terre. On a tous les problèmes de Trumot et Maasrot, de la Shemitah, etc., de Bikurim, etc. Donc ça, l'expression de la Kdushat Haaretz, c'est en quoi est-ce qu'elle est sainte cette terre? C'est que quand on la cultive, on donne un autre sens à la... Premièrement, on ne peut pas se considérer comme étant les vrais propriétaires au sens où les autres sont propriétaires de leur terre, puisque au bout de 50 ans, il y a le Yovel et les terres qu'on a acquises entre-temps reviennent à leur propriétaire initial. Il y a tous les 7 ans, tu es plus propriétaire de... Tu ne peux plus te considérer, te comporter comme un propriétaire sur ta propre terre, etc. Et puis il y a tous les prélèvements, que quand tu veux prendre les fruits de la terre, il faut que tu en donnes aux Kohen, il faut que tu en donnes aux Lévi, il faut que tu en donnes aux pauvres, il faut que tu veilles à ce que les marchés d'Yerushalayim soient remplis, etc. Donc ça, c'est l'expression de la Kedusha Teretz Israël. Cette Kedusha, elle a été mise sur la terre d'Israël quand les Israël ont conquis Eretz Israël. Alors, sous la direction de Yoshua, ils ont conquis Eretz Israël, ils ont installé une Kedusha sur Eretz Israël. Et il y a une discussion dans la Gemara, est-ce que cette Kedusha qu'ils ont installée, est-ce que c'était une Kedusha définitive ou non? Alors, on dit que la Kedusha qu'ils ont installée était une Kedusha qui n'était pas définitive, c'est-à-dire que quand Nebuchadnezzar a conquis, a battu les Bnei Israël, etc., eh bien, il n'y avait plus de Kedusha sur la terre d'Eretz Israël. Et quand les Bnei Israël, avec la permission de Cyrus, etc., sont revenus avec Ezra en Eretz Israël, ils ont établi sur la terre d'Eretz Israël une Kedusha qui, elle, est une Kedusha définitive. Et j'ai vu des Chachamim qui expliquent la différence en disant que la Kedusha qui a été installée par la violence, par la guerre, ben elle dure ce que dure l'effet de la guerre. C'est-à-dire, tant que les Bnei Israël étaient les plus forts sur cette terre, il y avait la Kedusha. Quand Nebuchadnezzar est venu, il a battu les Bnei Israël, il n'y a plus de Kedusha. Mais la deuxième Kedusha, elle n'a pas été installée par la violence, il n'y avait pas d'armée. Elle était installée par le Sefer, par... Voilà, ils sont venus, ils ont enseigné, ils ont dit la parole d'Hachem, et ils avaient la permission de Cyrus, etc., sans la guerre, par la parole. Lui disait, les Chachamim disent, c'est selon le Sefer, c'est le livre, quoi. La conquête par le livre. Cette Kedusha-là, elle est définitive. On retrouve ici, c'est peut-être quelque chose de cette idée-là, c'est quand les Bnei Israël sont obligés d'utiliser des armes qui ne sont pas les leurs pour conquérir Israël, ils ne peuvent mettre sur cette terre qu'une Kedusha du type provisoire, en quelque sorte. C'est simplement, par la violence, tu peux instaurer quelque chose qui ne durera que quand la violence, tant que la violence est de ton côté, quoi, tant que c'est par la violence, tu es plus fort. Mais quand il s'agit d'installer quelque chose de définitif, alors il faut que Yaakov utilise sa force à lui, donc sa parole.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un temps pour la violence?
Bon, on pourrait dire comme ça. Je ne vous dis pas qu'on est obligé de le dire comme ça. Bien sûr, c'était Alpi Hachem. Mais néanmoins, on voit très bien que ce soit Alpi Hachem, on n'a pas réussi à installer cette Kedusha, hein, les Hatid Lavon. Ce n'est pas une Kedusha définitive.
Mais dans ce sens-là, je comprends bien. C'est-à-dire qu'on comprend bien que c'est mieux de faire la conquête comme la seconde plutôt que comme la deuxième. Mais du point de vue des Goïms, le fait qu'au lieu d'utiliser les armes, ils utilisent la parole, ben, c'est étonnant qu'on leur reproche.
On pourrait... Un instant.
Alors, la première, c'était un ordre d'Hachem.
Oui, je vous ai dit, c'est Alpi Hachem, mais néanmoins, ça n'a pas installé de Kedusha définitive. Pourquoi ? Parce que on peut aussi dire que c'était un ordre d'Hachem, vu les circonstances, parce que les Israël, à cause de l'histoire des explorateurs, pour cette raison, s'est baladé 40 ans, et qu'à ce moment-là, pendant 40 ans de plus, les idolâtres étaient sur la terre d'Eretz Israël, et quand on est venu, là, c'est comme si la Vodazara était, en quelque sorte, beaucoup plus installée, elle avait 40 ans de plus d'installée dans la terre d'Israël, et d'un autre côté, les Israël étaient en... Ils étaient en position de faiblesse, si on peut parler comme ça, dans la mesure où justement ils ne viennent pas avec toute leur énergie. Il a fallu d'abord, ils ont passé 40 ans à se promener dans le désert et à laisser mourir toute la génération. Donc toute la génération qui était sortie d'Égypte, tous ces gens-là, ils sont tous morts. Donc on n'est plus venu avec cet élan, en quelque sorte, de l'Erter Harai Bamidbar, comme Jérémie a dit, tu m'as suivi dans le désert, Beretz Lozroa, etc. Zahartilach, Chesed Neuvaïr. Ça, c'est un Chesed que le clan d'Israël a fait dans sa jeunesse, de suivre Hachem. Mais il s'est trouvé qu'après, on s'est cassé la figure. Donc,
si la deuxième Kedusha par le livre, vous avez dit, elle est définitive, la violence n'aurait pas pu la chasser.
Ah non ? Elle est encore là. Là, il y a de la Kedusha, sûr. Cette Kedusha, elle est là. Pourquoi on fait la Shemitah aujourd'hui ? Si vous voulez. Si, toute chose égale par ailleurs, si les Bnei Israël qui ont vécu en Eretz Israël après Nebuchadnezzar, ils n'avaient pas de troumot à donner. Ils faisaient leur récolte, pas de troumot, il n'y avait pas de Shemitah, parce qu'il n'y avait plus de Kedusha. Nous, pourquoi on fait la Shemitah, pourquoi on donne troumot et Maasrot? Parce qu'il reste de la Kedusha. C'est pas l'autonomie. C'est la Kedusha elle-même. Alors.
Même en Galout, ça veut dire.
Non, parce qu'il n'y a pas de Kedusha sur le Galout.
Oui,
mais. Même Israël, même aujourd'hui, quoi. Oui, on est même en Galout, c'est ça qu'on veut dire. Kedusha la Hatid Lavo, ça veut dire, quoi qu'il arrive, la terre, elle a cette Kedusha maintenant. La terre d'Israël a cette Kedusha, que les Bnei Israël y soient installés et qu'il la domine ou qu'il soit sous domination, peu importe, quand on était sous les Turcs ou sous le mandat britannique ou n'importe quoi, il fallait donner Troumot et Maasrot. Ça n'a rien à voir avec l'installation d'un État ou d'un très grand nombre de Bnei Israël sur la terre d'Israël. Donc ici on trouve, bon, c'est juste ça, c'est une parenthèse. Maintenant, en tout cas, ce qui se passe, c'est que il y a là un reproche qu'Hachem fait à Bilam et qui lui dit, toi, tu n'as pas le droit d'utiliser la parole contre Israël. Et puisque toi, tu transgresses en quelque sorte ta humanut, c'est ta caractéristique, ce qui te... C'est marqué Emunatra, mais peut-être il faut lire Umanatra, Umanutra, c'est-à-dire ta humanut, c'est... Par exemple, quand ce mot de humanut... L'humanut aujourd'hui, c'est l'artisanat en Israël, en hébreu moderne. Et c'est l'artisanat dans la mesure où il y a un artisanat qui est spécifique dans chaque pays, il y a un artisanat spécifique. C'est votre artisanat, votre façon de faire. C'est une expression qui est utilisée, par exemple, quand les Bnei Israël se trouvent devant la mer, sortis d'Égypte, ils sont devant la mer, et quand ils se sont mis à prier, alors Chazal disent, Tafsu umnut avotam. Ils ont saisi l'artisanat, la façon de faire de leurs ancêtres. Les ancêtres priaient, et voilà tout à coup les Bnei Israël qui se mettent aussi à prier, et on dit ici, comme si avant ils ne priaient pas, c'est peut-être le cas, en tout cas on dit Tafsu umnut avotam. C'est-à-dire maintenant tout à coup, voilà, ils se mettent à faire ce que faisaient leurs ancêtres. Ils se sont rattachés à Abraham, Yitzhak et Yaakov à ce moment-là. Comme si, jusque-là, il n'y avait pas de vrai rattachement. Comment ils se sont rattachés? Mais en pratiquant la même chose que ce qui caractérisait les Avot. C'est la Oumanout. Et là, la Oumanout du clan Israël, c'est la parole. C'est ce que Yaakov, Yitzhak Avinu a installé. Il a dit, Akol kol Yaakov. Par la voix, ça c'est Yaakov.
Rachid sur le Bassoud qui ramène exactement le même mot de ce midrash, il utilise le mot Oumanout.
Oumanout, oui, non, j'ai l'impression que c'est marqué Mounatra, mais c'est Oumanatra.
Le radar est corrigé.
Il corrige ici?
Oui.
Parfait. C'est parfait. Donc, voilà. Alors maintenant, la question qui vient, c'était donc la question de Jérémie, c'est effectivement que les Bnei Israël, eux, doivent utiliser ça, mais en quoi est-ce que c'est vraiment quelque chose de... C'est quoi? C'est une chasse gardée? Bilam, il est connu pour ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés chez Bilam plutôt que chez Tartampion? Parce que Bilam est un spécialiste de la parole. Ils ont voulu mettre la parole de Bilam face à la parole de Moshe. Alors maintenant, évidemment qu'il est venu avec la parole. Mais ici, on voit, le Midrash dit qu'il n'a pas le droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tous les coups ne sont pas permis? Il va faire la guerre contre Israël, au nom des Oumanout. Tous les coups sont permis, non? Ben non, c'est pas comme ça. Toi, tu n'as pas le droit d'utiliser ça contre Israël. Même si c'est ta caractéristique, mais toi, tu te bats, mais pas avec les armes d'Ebné Israël. Il y a ici un retournement. Vous vous souvenez quand on avait parlé du Midrash d'Avraham Avinu qui faisait la guerre contre les cinq, et puis finalement ils étaient tous les rois là, pour aller chercher Lot. Il faisait la guerre lui en jetant de la paille et de la poussière, qui devenait. De la paille et de la poussière, qui devenaient des lances, qui étaient des armes quand elles tombaient chez l'ennemi. Et quand l'ennemi envoyait des lances et des flèches, etc., ce qui tombait chez Abraham Avinu, c'était de la paille et de la poussière. Et alors, on avait expliqué que un des grands problèmes, à la limite, on aurait pu dire, bon, qu'Hachem protège Abraham, que ce qu'on jette contre lui devienne simplement de la poussière et de la paille, on comprend. Mais pourquoi est-ce que lui se bat de cette manière-là? Parce que un des grands risques dans la guerre, c'est justement le fait qu'on est amené à prendre les armes de l'ennemi. Et donc, les armes de l'ennemi, ça, bon, quand c'est les armes de l'ennemi au sens de si tu vas prendre tel fusil parce que l'autre, ils ont un fusil, bon, on peut entendre. Mais les armes de l'ennemi, c'est des valeurs de l'ennemi. Tout à coup, tu vas te dégrader et tu vas faire des choses que toi, tu ne fais pas, mais puisque tu vois que les autres le font, bah, tu vas le faire aussi. Imaginez que, par exemple, bah, les autres torturent, alors on va aussi torturer. Ou les autres, ils envoient leurs filles, ils prostituent les princesses, alors on pourrait dire, bon, nous aussi on va prostituer nos princesses, ou nos princes. Et ça, la dégradation qu'il y a dans une guerre, du fait qu'on est quasiment coincé souvent par les autres en face et qu'on ne sait pas comment répondre autrement qu'en utilisant et en tombant, c'est un piège, parce qu'on a déjà perdu quelque chose dans cette guerre.
Avec quelqu'un qui est tortueux.
Pardon ?
Avec quelqu'un qui est tortueux, on a le droit d'être...
Alors, on a le droit d'être tortueux avec quelqu'un, mais quand tu fais la guerre, c'est seulement... Le tortueux, ça veut dire, comme Yaakov a dit à Rachel, elle lui a dit, tu sais bien que mon père c'est tortueux, comme vous dites, c'est un roublard de première classe, il a dit, je suis son frère, et moi tu, il ne m'aura pas, moi aussi, s'il faut être roublard, je saurai l'être. Alors il avait tout prévu, Yaakov, par rapport à Laban, ce qui n'est pas prévu, c'est que Rachel vendre la mèche, ça il n'a pas compris. C'est quand même une... C'était la pression de Laban qui savait que probablement que Rachel n'allait pas assister à l'humiliation de sa sœur sans faire quelque chose. Donc il a probablement calculé ça aussi. Et ça, Yaakov, visiblement, il ne l'avait pas prévu. Mais a priori, il y a quelque chose dans la guerre qui est je me dégrade à faire ce que l'autre fait. Quand l'autre utilise des choses qui me dégraderaient, que moi, de ma propre initiative, je n'aurais pas fait, mais que je suis amené à faire à cause de l'autre, que ce soit parce que je ne peux pas faire autrement, j'ai l'impression que je ne peux pas faire autrement.
Alors qu'est-ce qu'on doit faire?
Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, tu vois bien, Abraham Avinu, il a envoyé de la poussière et de la paille.
Je comprends bien, mais c'est Abraham, c'est pas nous. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire si les gens nous attaquent?
Ben justement, il faut savoir si tu es Abraham ou pas. Alors, c'est vrai que quand on dit attaque, qu'il faille prendre un fusil parce que s'ils ont un fusil plus. Qui permet de tirer dans les coins aussi. Bon, mais il faut peut-être aussi emprunter un fusil qui permet de tirer dans les coins, je veux dire. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand ça touche des valeurs. Tu dois avoir des comportements, effectivement, qui cassent complètement, qui cassent tes valeurs, qui sont contraires à tes valeurs. Tu te dégrades, alors, des fois. La vérité, c'est que dans le Passouk, c'est écrit... Hachem dit, tu devras faire quand on devra faire la guerre, et Hachem dit, je te donnerai du rachamim, je te compenserai. Et donc, on voit du pasouk, on voit que Hachem ne dit pas, quand tu feras une guerre juste, tu ne perdras pas de ta sensibilité, de ta capacité de rachamim. Il dit, tu vas en perdre, parce qu'on ne peut pas faire la guerre sans la perdre. Cette sensibilité. Parce que la guerre, ça fait perdre. Mais, si la guerre est juste, je te redonnerai ça. Mais Hachem n'a pas dit, tu ne le perdras pas. Il te dit, tu vas le perdre, mais je te compenserai. Je t'en redonnerai, je te redonnerai cette capacité, cette tendresse, cette sensibilité, etc. Je te compenserai ça. Donc, c'est inhérent à la guerre. C'est désolant, mais c'est inhérent à la guerre. Comprend. Mais ici, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit d'utiliser ça? Semble-t-il que c'est dans une guerre contre Israël, il y a des règles. Il y aurait une règle qui est à Kol Yaakov. Ce qu'on peut dire, c'est que utiliser le glaive, utiliser la violence, les armes, etc., pour les Omotanam, c'est normal. Donc, quand on leur dit tu n'utilises pas la parole, tu n'as pas le droit d'utiliser la parole, ce qu'on veut dire ici, c'est utilise tes armes, je te prive rien. Hachem n'a pas dit contre Israël, on n'a pas le droit d'utiliser telle et telle arme que tu utilises dans tes guerres ordinaires. Tu peux utiliser toutes les armes que tu as l'habitude d'utiliser. Mais contre Israël, la spécificité d'Israël, le fait qu'Israël ne fonctionne pas comme tout le monde et que lui fait la guerre avec la parole. Pardon ? Qu'Israël fait la guerre par la parole, étant donné que ce n'est pas une guerre normale, d'accord? Normalement la guerre ne se fait pas par la parole, uniquement par la parole, on ne parle pas de la propagande ou de tout ce qui s'utilise, etc. Mais d'utiliser vraiment l'arme de la parole en tant que seule arme, si on peut parler comme ça, ça c'est interdit. Et si les Umot HaOlam transgressent, alors Hachem utilise contre eux leur arme. Mais c'est dans les mains d'Hachem, dans les mains du Malach. Le Malach, l'ange, il a... Donc quelque part, c'est comme si, au nom d'Israël, du coup, mais c'est pas Israël qui va le faire, mais moi, dit Hachem, je vais envoyer un Malach qui, au nom d'Israël, va utiliser les armes contre toi. Tes armes à toi, contre toi. La vérité, c'est un midrash très étonnant. Cette restriction qu'il y a que dans une guerre contre Israël, les Umot HaOlam n'ont pas le droit d'utiliser n'importe quoi. Ce qui est spécifique à Israël, pas le droit de l'utiliser. C'est un peu comme on dit, la Torah, elle a été donnée à Israël et les Umot HaOlam n'y ont pas droit. Torah Shebaal Peh, n'y ont pas droit. Bon, voilà. Chasse gardée. La parole pour faire la guerre, chasse gardée.
Pas dire également, puisque en fait, Bilal, on a dit à plusieurs reprises que c'est un avis qui a été pour les goïms, on va dire, à la hauteur, au niveau d'un chéravim, justement pour que les goïms ne puissent pas dire, mais si tu nous avais donné, etc. Donc là, quand le Midrash dit que Hachem s'est mis en colère, déjà, on ne comprend pas très bien où est la colère après ce qui est expliqué, si ce n'est pas ce qui est écrit.
C'est ça, la colère, c'est ce qui est écrit.
Oui, justement. Mais ça n'apparaît pas comme l'expression de la colère.
Si, parce qu'Hachem se met en colère, c'est-à-dire qu'en fait, il envoie un malaf que.
Justement, ce qui est dit là à propos de. Malach qui est spécifié comme un malach de
Rahamim. Rahamim, oui, c'est sûr.
Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on ne parle pas, on parle pas du malach en situation ici? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le malach, en fait, de Rahamim, c'est celui qui donne la possibilité à Bilam de parler, d'utiliser la parole au même titre que Moshe Rabbeinu utilise la parole, c'est-à-dire ce pouvoir qu'il a de la parole, précisément. Et quand le Midrash dit après, mais justement, la dimension de Rahamim d'Hachem, c'est d'avoir donné cette capacité à Bilam. Et cette capacité, précisément, elle lui a été donnée à travers un ange, mais lui, il a fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il en a, de cette parole, de la façon dont il a voulu l'utiliser, il s'en est fait un véritable adversaire. C'est-à-dire qu'il a transformé le Rahamim d'Hachem en quelque chose qui ne fonctionne pas. Il sait donc, il en a fait donc, exactement l'objet inverse de ce qu'il pouvait en faire. Et on peut dire, parce qu'on parle du glaive, mais en fait, Bilam, lui, ne le voit pas. C'est l'ânesse qui voit le glaive.
Mais il y a un glaive.
Oui, il y a un glaive. Mais ça veut dire qu'il est complètement aveugle. Il faut que ce soit son ânesse qui se rende compte qu'il est. Le glaive, c'est, quelque part, c'est pour montrer qu'il est. Il fait fausse route. Mais lui n'arrive même pas à le voir.
Ouais, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un malheur de Rachamim. C'est un malheur de Rachamim qui est là pour l'empêcher de mal faire. Alors, le malach, il a un glaive, mais son glaive n'est pas. Il ne l'utilise pas contre Bilam. Il lui montre. Voilà, j'ai un glaive, je te montre que tu. C'est ce que dit le Midrash. Le glaive n'était pas du tout pour frapper Bilam. C'est pour lui dire, tu vois que. Tu utilises une arme à laquelle tu n'as pas droit, et du coup, si tu fais ça, alors moi, je vais mettre contre toi une arme. Contre toi, ta propre arme, ça se retourne contre toi. Mais c'est pratiquement la même chose que de dire, je t'envoie un malach, et toi tu veux en faire un satan. Toi tu en fais un satan contre toi. Mais on peut lui dire aussi, je t'ai donné ce pouvoir de la parole pour convaincre les Umot HaOlam, pour parler aux Umot HaOlam, mais pas contre Israël. Et donc quand tu utilises ça contre Israël, alors tu as retourné ce malach de Rachamim, d'accord, c'est-à-dire cette dimension de Rachamim qu'Hachem te manifeste, ben c'est toi qui en fais quelque chose contre toi, parce que tu l'utilises à un mauvais escient, tu l'utilises dans un cadre dans lequel tu n'as pas le droit de l'utiliser. Donc le fait qu'il ne le voit pas, ça c'est son problème. Le problème c'est qu'il est tellement aveuglé par l'argent qu'il va gagner, par le kavod, etc., qu'il ne voit pas. Il ne peut pas voir ce que Hachem lui met en plein milieu du chemin, et qu'il va même pas quand l'ânesse va lui écraser la jambe contre le mur, etc., il va se retourner contre son ânesse au lieu de se dire, mais ici il y a un message, il y a quelque chose.
Mais c'est ça, c'est comme un avertissement.
Oui, le malach est là.
Il utilise la parole, c'est-à-dire
il va pour utiliser la parole.
Oui,
alors Hachem lui dit, il n'en a pas question.
Et il ne voit pas que, précisément, quand il agit comme il agit, avec la parole, parce qu'il a ce pouvoir. Il a le pouvoir de la parole.
Oui, mais parce que le bon usage de la parole de Bilam, c'est de faire ce que Moshe Rabbeinu a fait au Bnei Israël, de le faire par rapport au Umot HaOlam. C'est pas fait pour faire du mal à Israël. C'est à la limite, comme vous avez dit, pourquoi Hachem a envoyé Bilam? Il a envoyé Bilam au Umot HaOlam pour qu'il puisse pas dire, nous, si tu nous avais envoyé un Moshe Rabbeinu, ben nous aussi on aurait accepté la Torah, etc. Alors il dit, mais je voulais envoyer. Mais pourquoi vous l'avez mobilisé contre Israël au lieu de mobiliser pour vous approcher d'Hachem? Et pourquoi lui s'est mobilisé comme ça? Il s'est complètement fourvoyé, parce que la parole de Moshe Rabbeinu, elle n'était pas là, elle n'a pas été dite spécialement contre les Umot HaOlam. La parole de Moshe Rabbeinu a été dite pour construire le clan d'Israël.
Mais ce que je veux dire, c'est que le bled n'est pas là pour faire en quelque sorte de la violence une arme comme les Umot HaOlam l'utilisent contre les Bnei Israël, mais comme un avertissement, c'est-à-dire tu fais fausse route.
Oui, mais c'est ça que Hachem lui dit, tu vois que cette arme-là, c'est ça ton arme. Et tu vois que face à toi, il y a ce malheur qui te montre que tu passeras pas, parce que c'est quelque part. C'est Hachem qui dit, moi je vais retourner contre toi tes propres armes, puisque tu essayes d'utiliser les armes d'Israël contre Israël. Alors que les armes d'Israël ne sont pas. la parole d'Israël, la puissance d'Israël, à Kol Kol Yaakov, c'est pas pour faire la guerre.
Est-ce que vous n'aurez pas aussi l'idée de dire que quand Esav utilise la parole, enfin, quand Bilam, mais quand les nations utilisent la parole dans un, pas forcément pour faire la guerre contre Israël, mais dans un, en tout cas dans un mauvais but, que ce soit contre Israël, alors d'une certaine façon, il y a quelque chose. Quand ils font du mal avec une arme, alors on voit tout de suite le mal. Enfin, le mal est évident. C'est-à-dire un sauvage qui prend. Qui passe un peuple de sauvages qui se bat.
Même les civilisés quand ils savent.
Mais justement, en tout cas, quand des gens se prétendent être des gens de parole, mais qu'en fait, en vérité, c'est une parole qui a rien de moral et qui. Finalement, il y a quelque chose de pire, en fait. Ça veut dire une tromperie, quelque part. Ça veut dire qu'en fait, cette parole, il y a une parole. D'ailleurs, en fait, c'est même d'ailleurs le Midrash qui a proposé ça, qui posait des questions à son père, à son frère de Maaser. Donc c'est une parole, mais qui donne l'impression qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelque chose de spirituel. Mais en fait, c'est quelque part pire que s'il n'y avait pas eu de parole. Parce que quand il n'y a pas de parole, au moins, il y a quelque chose d'authentique. Ça veut dire le sauvage qui est sauvage, mais sans essayer de montrer qu'il ne l'est pas, bah, au moins, il est vrai avec lui-même. Alors que celui qui... Si on a l'impression dans cette démarche, ce qui est pire, c'est que c'est une parole, mais qui en fait n'est pas authentique. Et c'est pire finalement que pas une parole.
Il
n'y a pas de parole du tout.
Oui, ça va être bien. Oui, non, mais là, en l'occurrence, on est dans la parole. Lui, il va utiliser la parole et Hachem lui dit. Et on a l'impression que. Qui relève où, ça veut dire quoi puisqu'il est parti là pour utiliser sa parole contre Israël, alors on lui montre que non, tu n'en as pas le droit. C'est quand même remarquable de voir que, d'une certaine façon, Bilam, qui est un artisan de la parole, n'a pas le droit de l'utiliser contre Israël.
Mais il va l'utiliser, la parole.
Il n'a pas le droit de l'utiliser, il ne l'utilise pas, finalement,
oui,
contre Israël. Parce qu'Hachem va lui dire, pour Israël, la parole ne peut être que positive.
Oui, c'est ça, mais c'est toujours la parole qui va être l'instrument de Bilam.
Oui, c'est sûr.
Il n'y aura plus le statut d'arbre en ce moment. Il quitte le statut d'arbre quand il est transformé. L'arbre, en fait, c'est quand on veut pas être violent, c'est quand on veut. Quelle que soit la volonté de l'autre, on s'en fiche, on ne peut pas s'outre. Et donc, pour les peuples étrangers, quelqu'un arrive avec une armée, il détruit tout, et puis voilà, un petit autre comme toi. Là, ce serait que la parole d'Israël. Va s'imposer aux autres contre leur volonté, contre ce qu'ils ont envie de faire. Ils vont être obligés de céder parce qu'ils vont voir que ce qu'on dit est juste, la Torah dit est juste.
Il y a un truc que.
J'ai pas bien. Juste un instant, s'il te plaît. J'ai pas bien compris.
Ce que je trouve trop, c'est l'idée de parole et d'arbre. Ça a l'air pas dans la même catégorie. Donc si on veut voir la parole de la Torah comme une arme, c'est qu'elle s'impose à des gens qui n'en veulent pas, mais qui sont obligés de céder.
Mais en fait, comment est-ce qu'ils ont réfléchi? Ils ont dit, bon, les Bnei Israël, ils arrivent, et ils gagnent la guerre, ils ont battu Og, etc. Voilà, ils ont gagné la guerre. Alors on dit, quelle est leur force? Ben, la force, c'est dans leur chef. Et le chef, qu'est-ce qu'il a comme force? La parole. Mais Moshe Rabbeinu n'a pas utilisé la parole pour faire la guerre contre Og, Mel, Rabashan, etc. Ils ont fait. Voilà, les autres les ont attaqués, ils se sont défendus. C'est pas marqué du tout qu'il a utilisé la parole contre eux. Et donc, le Kol Yaakov n'est même pas une parole cette parole ne s'adresse pas du tout au Motaolam, ni positivement, ni négativement, hein, comme telle. Akol Kol Yaakov, c'est une parole interne, en quelque sorte. C'est à usage interne. Et lui, il va l'utiliser à usage externe, contre Israël, en quelque sorte. C'est doublement, en quelque sorte, un mauvais usage de la parole. Elle n'est pas à usage externe, et elle n'a pas non plus vocation, cette parole, de faire du mal. Elle n'est pas dirigée vers l'extérieur, et elle n'est pas dirigée pour faire du mal. Et c'est ça que... Mais toi, tu vas faire la guerre, mais ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas utiliser ses propres armes. On a l'impression que s'il avait utilisé ses propres armes, ben on lui aurait rien dit, quoi.
Peut-être là l'idée d'un détournement par Bilam d'une forme même de la brigade. Parce que la parole participe de la création. Donc ça va très loin.
Ben, si vous voulez, au lieu que la parole soit une parole de vie, ça devient une parole de mort.
Par la Torah.
Il en fait une parole de mort.
C'est cela. C'est-à-dire une sorte d'anticréation.
Oui, la mort. Yudalet. Vatet ha'atom min aderech. Et donc l'anès a dévié. Midrash dit Arasha ze olech le kalel ou mashlema. Chelo chatalo. Ce rachat, il est en chemin pour aller maudire un peuple entier qui ne lui a rien fait. Ou maqué à tono chez l'hôtelier Bassadé. Et il frappe son ânesse pour qu'elle ne prenne pas le chemin des champs. Il y a le malard qui est en plein milieu, ben elle a essayé de contourner l'obstacle. C'est écrit dans le passouk, il y a un mot de Malach Hashem, mais Michel Akramim. Alors le Malach s'est mis aussi, elle est allée visiblement dans les vignes, le Malach est allé dans les chemins qui circulent entre les vignes. Le chi, l'oye, achol, lo, l'élech, acharav. Et là, car, midata kadosh baruchu, la midata kadosh baruchu, c'est comme ça, mais melech basar vadam, meshaleach, speculator, la robe et adam, maalech acharav, yamim harbe, vezé, shenit chayev mita, ochel veshote, והספקלטור מהלך ומטרף אחריו ממקום למקום ולפני הקדוש ברוך הוא אינו כן הספקלטור במקומו עומד ומי שנתחייב מיטה בא אצלו ברגליו כדי שלא יצטער המלאך ללך אחר בלעם אז קדמו לדרך ויעמוד מלאך השם במשעול Qu'il dit ici, c'est le malach s'est tenu devant lui. Alors la question qui se pose, est-ce que ça n'était pas possible de suffisait que le malach aille derrière Bilam et qu'il le poursuive et qu'il le tue s'il fallait le tuer? Alors, le Midrash dit non, Kadosh Baruch Hu ne procède pas comme ça. Un roi, quand il veut faire tuer quelqu'un, il envoie ce spéculateur. Qu'est-ce que c'est le spéculateur Khan? Il dit que c'est du latin, c'est Memune la rogue, mais Mechouyeve Mita. Ça vous dit quelque chose?
C'est pareil que le micro fermé, c'est du grec. Je regarde en gestro.
Le Etz Yosef, il dit que c'est du Lachon Rumi, mais bon, ça peut être du grec quand même, mais...
On va voir. Le spectre peut être spectaré.
Oui, mais ça, c'est... ils ont mis un lamel, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est peut-être une erreur, mais...
Lator, ça veut dire porteur, peut-être, en latin. Le Lator, c'est porteur, le spectre, c'est pas quoi. Attendez, je regarde.
Vous n'avez pas de gaffio, là?
Non, 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 mais de toute façon, le Jastro est déjà très bien. Je me fais mon position. Voilà. Speculator, en latin. Voilà. C'est-à-dire celui qui...
L'exécuteur. C'est le bourreau, quoi.
L'exécuteur.
Les basses œuvres. Oui, d'accord. Voilà. Donc il envoie l'exécuteur. Le roi, il envoie un exécuteur, un type, il a un contrat, voilà, tu le suis et quand tu peux, tu le tues. Le type le devant, il mange, il boit, etc. Et il ne sait pas qu'il est suivi par celui qui va le tuer. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça, l'exécuteur, il est sur place. Et celui qui est passible de mort, il va se jeter dans ses pieds. Pourquoi? Parce que comme il dit, « Kilo itztaer amalach lelech achar bilam » On n'a pas voulu faire souffrir le malach qui doivent suivre Bilam. Il est allé se mettre en place directement, le malach, et Bilam lui est tombé... Bilam lui rentre dedans. Donc le Vayamod Malach Hashem Bemishol, donc le Malach Hashem, il est là dans les vignes, là. Amarlo, il lui a dit, Akramim Nimkarim Keshualim, Geder Mise ve Geder Mise. Il a dit que les Kramim, bon, le Hetz Yosef, il dit que c'est une Kramim, la vigne, c'est une image pour parler du Klal Israël. Ça veut dire ils sont livrés à Nimkarim la Shualim, c'est ils sont livrés aux mains de leurs ennemis comme des renards. C'est Geder Mise et Geder Mise. Veina Tayachol Lishlot Bahem, Shibideem, Luchot Ktuvim, Mishne Evrehem, Mise ou Miseem Ktuvim. Il a dit, même si tu les coinces complètement, les Bnei Israël, tu ne pourras pas les dominer. C'est pas possible de. Tu n'y arriveras pas. Tu ne pourras pas parce que les Bnei Israël, ils possèdent ces fameuses tables qui sont écrites des deux côtés. Et ça, ça t'empêche de... Tu ne peux pas gagner contre eux. Et à ce moment-là, Vatereh Aton et Malach Hashem, on ne comprend pas du tout ce qu'il lui a dit là. Mais l'ânesse a vu le malach, va-t-il arrêter, c'est la kir. Et du coup, l'ânesse a de nouveau dévié et elle a écrasé la jambe de Bilam contre le mur. Va Yosef malach Hashem, avor. Mais le malach a continué d'avancer. Alors le Midrash demande, Mara le Kadmo Shlosha Peamim Achelo Nirelo. Pourquoi est-ce qu'il a le malach, chaque fois il recule et pendant tout ce temps-là, Bilam ne le reconnaît pas, il ne le voit toujours pas.
Il a compris.
Oui, Avor, il passe, oui, il recule, ça veut dire. Il avance, et Bilam continue d'avancer aussi, c'est comme si, je ne sais pas si le Malachi marchait à reculons. En tout cas, il passe, et il demande, mais pourquoi ça se passe comme ça? Il dit, Simanim shel avot eralo. Il lui a montré des simanim des avot. Des signes des avot. Amadlo barishona. La première fois, là où il s'était arrêté, aya remach mikan ou mikan. On pouvait passer à gauche ou à droite. Le malach était au milieu du chemin, mais on pouvait passer à gauche ou à droite. Vatet haaton mina derech vateler bish vateler. Alors effectivement, l'ânesse s'est détournée et elle a avancé. Bashnia, la deuxième fois, lo yachla la zouz el al tzadechad. Mais la deuxième fois, il n'y avait plus qu'une seule ouverture pour l'ânesse. Et bashlishit en derech mintot yamin usmol. La troisième fois, on ne pouvait pas aller ni à gauche ni à droite. Ça, c'est les simanim. Alors, en quoi c'était les simanim, là? Sheinu bikesh lekalel banav shel Avraham. C'est pour lui dire comme ça. Si tu avais voulu maudire les descendants d'Abraham, Ayamotse, Mikan, Mikan, Bene Ishmael, Bene Ktura, tu aurais trouvé à gauche et à droite les Bene Ishmael et les Bene Ktura. Bikesh le Kalel et Bene Yitzhak, Ayamotse, Bahen, Sadechad, Bene Esav. Alors va-t-il acheter la pire, Banav Shel Yaakov? L'omatsabahen solet ligabahen. On peut dire comme ça. Si tu avais voulu maudire les enfants d'Abraham, tu pouvais critiquer Abraham. Parce qu'à gauche et à droite, de gauche et à droite, il y a Abraham, il a quand même donné naissance à Ishmaël et aussi aux descendants de Keturah, qui ne sont pas des Bnei Israël. Mais bon, tu, en tant que Bnei Abraham, on peut critiquer Abraham parce que sa descendance n'est pas parfaite. Des deux côtés. Yitzhak, il n'y a plus qu'un seul côté. Il y a Esav. Mais Yaakov, il n'y a pas de défaut dans la descendance de Yaakov. Et donc, tu n'as pas de prise sur les Bnei Israël, les Bnei Yaakov. Le kach ne'emar bashlishit b'makom tsar ze Yaakov. Dirtiv va'yira Yaakov me'od va'yitzer lo. C'est pour ça que c'est marqué, cette idée d'un makom tsar. On a dit, c'est Yaakov, quand c'est devenu très étroit, tsar c'est très étroit, alors vous n'avez pas de place pour passer ni à gauche ni à droite. Ça correspond à Yaakov, parce qu'il y a un pasouk qui dit, va ira Yaakov me'od, va yetzer lo. Yaakov a eu très très peur, va yetzer lo, et il était angoissé. Mais tsar c'est l'angoisse, c'est complètement resserré, c'est l'angoisse qui vous prend à la gorge. On pouvait aller ni à gauche ni à droite. Puisqu'il n'a pas trouvé de défaut suffisamment important, donc, chez aucun des fils de Yaakov. Alors, il ne peut passer ni à gauche ni à droite. Alors, l'ânesse a stoppé. Elle a stoppé net. Veichar av Bilam, alors Bilam c'est de nouveau mis en colère. Veyach et Aton Bamaken, il a frappé l'ânesse avec son bâton. Pourquoi? Al Bizyono Shebizta Oto. Parce que je pense que c'était où il est tombé de son ânesse, ou c'est un Bizayon, elle lui a fait honte, elle. Vaïftach Hachem et Pia Atom. Alors Hachem a ouvert la bouche de l'ânesse. Pourquoi ça? Pour que Bilam, qui était parti pour ouvrir sa bouche, il comprenne le Dioshe Apeva la Chambur Shuto. Pour que Bilam sache que la bouche et la langue, c'est dans les mains d'Hachem. Shem Bikesh Likalel. Piv birchuto. Si tu veux être mekalel, ta bouche sera aux mains, enfin, sera aux mains d'Hachem si on vous parlez comme ça. La Tover le Bilam, mais assis-tu lecha, qui quitte Anizé, Shalosh Regalim. Il dit, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me frappes trois fois? Et alors le Midrash dit, Ramzalo, elle lui a dit de façon allusive, Atam vakesh l'accord, umash, achogeret shalosh regalim. Tu veux frapper un peuple qui fête les trois fêtes de pèlerinage? Alors, Vayomer Bilam, Laaton, qui est à l'altbi. Je t'ai frappé parce que tu te moques de moi. Afalpi, Shem Daber Bilshon Akodesh. Oved Kochavim, le Shono Saruach. Le Midrash dit que même quand un idolâtre, même quand il parle hébreu, Falashna Kodesh, il parle de façon vulgaire. Il parle de façon dégoûtante. Louyesh Cherev Biyadi, alors il dit, si j'avais une épée, je t'aurais coupé la tête, quoi. Machal le refait, Sheba le rapot bilshono, Nashuf Nashach, le Nachash. C'est comme si un médecin venait pour, en principe, pour guérir. En principe, il est censé guérir. Quelqu'un qui a été donc nashour, qui a été piqué, mordu par un serpent. Baderech ra'a anaka achat. Et en chemin, il voit un lézard. Il trie le vakesh, makel le orga. Et il cherche un bâton pour tuer ce lézard. Zamrou, zou, iata yachol litol. Ech bata le rapot bilshoncha, nashuf nachash. Celui-là, un petit lézard, t'arrives pas à en faire façon. Et comment tu t'imagines que tu vas, avec ta bouche, tu penses que tu vas guérir quelqu'un qui a été mordu par un serpent? T'es nul, quoi. Kach amra ton le bilam. Ani, La neige lui a dit, Ani eina tayachol le orgeni. Ela imken cherev biyadcha. Moi, tu peux même pas me tuer si tu n'as pas d'épée dans ta main. Puisque si j'avais une épée, je t'aurais tué. Ça veut dire, t'as besoin d'une épée pour me tuer? Moi, une ânesse? Et chatarotse la kor ou machlema. Et comment tu veux, par ta parole, tu t'imagines que tu vas éradiquer un peuple entier? Shatak velo matsa tshuva. Bilam s'est tu, il n'avait pas de réponse. Itrilut meim sare boav sheraou nes shelo yakamou meolam. Les princes de Moab qui marchaient avec lui, ils ont été très étonnés, ils ont vu un miracle, ils ont vu, c'était jamais vu. Veyesh omrim amar lahem ena sheli. Certains disent qu'il leur a dit, qu'est-ce que ça veut dire ici, ena sheli, c'est pas à moi. Je ne sais pas du tout comment. Je ne sais pas comment la contenir. Elle n'est pas en mon pouvoir. Et Shivato, alo anochi atoncha, sherachavta alai meotcha adayomase. Qu'est-ce que tu fais comme si j'étais une ânesse sauvage que. Depuis toujours, tu. Je ne sais pas comment on dit. Il faut dire chevaucher une ânesse. En tout cas, tu es sur moi en permanence. Alamata shelo ya zaken she'atan gdola emenu. On apprend de là que lui n'était pas si vieux que ça, parce que l'ânesse était plus âgée que lui. Parce qu'il dit, depuis toujours, moi j'étais déjà là quand tu étais un gosse, tu étais déjà sur mon dos, quoi. Asken iskanti la asot le chako, est-ce que je t'ai jamais fait un truc pareil? Kivan shidibra meta. Une fois qu'elle a eu parlé, l'ânesse, elle est morte. Pourquoi? Sheloi omrim zu shedibra. Aussi mota ira. On avait peur qu'on la divinise, cette ânesse. C'est l'ânesse qui parle. Il allait en faire une idole. Ou d'abord, frère, asken iskanti la sot le chako. Est-ce que je t'ai habité autre chose? Est-ce que je t'ai jamais fait une chose pareille? Chas akadosh baruchu al kvodo shel oto racha. Elle meurt, pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, mais avec tout ça, Akadosh Baruch Hu a eu pitié, il n'a pas voulu humilier ce rachat. Chez l'Oyomru, Zou Aïta, chez Silka et Bilam. Faut qu'on puisse pas dire que cet animal, c'est l'animal qui a vaincu, qui a dégradé Bilam. Vimchas Akadosh Baruch Hu al Kvod Aracha, et si Akadosh Baruch Hu a tenu compte du kavod d'un tel rachat, Enser Lomar al Kvodat Sadik. On n'a pas besoin de dire que Hachem s'occupe du kavod d'un Sadik. Renu Omer, comme on voit ici, Vihisha Asher Tikrav El Kol Behema Le Riva Ota Verakta Eta Isha Veta Behema. Comme on voit dans les psukim qu'on a lu il y a deux semaines, que si jamais il y a une femme qui a des rapports avec un animal, on tuera la femme parce que à cause de la véra, mais on tuera aussi la béhéma, on tuera aussi l'animal. Chez l'oyom rouzoua béhéma, chez nereget, isha plonit aliadea. L'animal qui a été la cause de la mort de ce madame, de cette femme-là. L'odiacha, shechas akadosh baruch hu al kvodan shel briot, viodea tzorkan. C'est-à-dire, pour akadosh baruch hu, il tient compte des besoins des gens, et il tient compte de leur kavod. Vesatam pia behema, et il a fait taire l'animal. Shilu haitam daberet, lo yocholim le shabda, vela avodba. Shezu, atipeshet, sheba behema, vese chacham sheba chachamim, Kivan Shedibra Loya Khola Modba. Donc Hachem a fait taire cet animal parce que si l'animal avait pu continuer de parler, on n'aurait plus pu mettre ces animaux au service des hommes, on n'aurait même plus pu se tenir face à eux. Parce qu'ici on a une ânesse qui est la plus bête, je ne sais pas, Midrash pense aussi que les ânes sont bêtes, je ne sais pas, qui est la plus bête de toutes les bêtes, et en face d'elle, il y a l'homme le plus intelligent, Bilam, mais il n'a pas fait le poids, et dès qu'elle a commencé à parler, il ne peut plus parler, donc on l'a fait taire. Voilà, on va s'arrêter, parce que je reprendrai la prochaine fois, il faudra commenter ce midrash, mais c'est trop long pour le faire maintenant.
Score. Top. Chabas.
Chabas.
Je vous rappelle encore, si vous voulez participer à la vidéo, participer.
tout le repas et tout ça.
Vous feriez mieux de vous inscrire.